Bonjour à tous et bienvenue sur BAC FM 106.1 dans l'émission « À quoi qu'on joue ?». Votre rendez-vous mensuel sur le jeu, sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du Jeu et j'animerai cette émission. Comme tous les mois, je reçois un ou des invités qui viennent nous livrer leur actualité ou partager leur passion. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Camille et Erwan, nos passionnés de jeux de plateau, que dis-je, nos spécialistes, maison. Bonjour Camille, bonjour Erwan.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Bah, ça va bien.
Ça va nickel.
D'accord, ça se fait que vous êtes déjà de retour.
Ah, on a des petites nouvelles.
Ah, très bien. Alors, pour rappel, souvenez-vous, Camille et Erwan étaient avec nous pour l'émission du mois de décembre, où on avait présenté, où ils nous avaient présenté un top 5, un top 10.
un top
de jeu pour la fin de l'année. Et figurez-vous qu'il se passe quelque chose dans le petit univers ludique ce mois-ci. Camille Erwan, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe?
Eh bien, simplement la remise du prix, du plus prestigieux prix en France concernant les jeux de société qui se déroule durant le Festival international des jeux de Cannes à la fin du mois.
Tout à fait, ce sera donc la cérémonie et le festival pour l'As d'Or au Festival de Cannes. À Cannes, évidemment. Alors pour ceux, on a déjà souvent cité au cours de l'émission des jeux avec la mention As d'Or ou parler du Festival de Cannes. Là, c'est, eh ben, comme c'est ce mois-ci, c'est l'occasion. Au moment où cette émission sera diffusée, la cérémonie aura lieu normalement le jour même ou le lendemain, puisqu'elle est programmée, la cérémonie de remise des prix pour le vendredi 25 février. Et le festival, lui, est surtout le week-end du 25 au 27. Voilà. Voilà pour les dates, voilà pour les infos. Alors, avant de parler des jeux qui vont être nominés cette année pour l'As d'Or. Est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est un peu l'As d'Or, depuis quand tout ça? Est-ce que vous avez quelques infos à nous donner là-dessus?
Oui, en fait, donc l'As d'Or, comme on l'a dit, c'est un prix qui est remis durant le mois de février, pendant le festival. Et en fait, c'est un prix qui existe depuis 1988, qui avait fusionné en 2005 avec le prix du jeu de l'année. Et c'est un jury composé de journalistes et de professionnels du monde du jeu qui choisissent un palmarès parmi plus de 1000 nouveaux jeux qui ont été édités au cours des 18 derniers mois.
D'accord. Et donc, alors là, le festival, en tout cas la cérémonie des As d'Or, ça a évolué depuis 1988. Aujourd'hui, on retrouve un certain nombre de catégories de jeux avec des nominés dans chaque catégorie. Et donc, il y aura un trophée, hein, on va dire, pour chacune de ces catégories. Alors, quelles sont-elles?
Eh bien, cette année, il y en a 4 différentes. Donc, il y en a une de plus que les années précédentes. Parce que je pense qu'ils ont écouté notre émission de la dernière fois et ils ont rajouté... ils ont rajouté une catégorie par rapport à la catégorie expert, qui sera la catégorie initiée. Donc, il y a le jeu de l'année pour les enfants, le jeu de l'année... tout simplement. Ensuite, il y a le jeu de l'année initié et le jeu de l'année expert.
Tout à fait. Il y a ces 4 catégories. Alors, le jeu de l'année tout court, on pourrait... Avant, il y avait une catégorie famille, finalement, qui n'est plus là. On garde enfant, effectivement, il y a cette nouvelle catégorie là initiée. Alors oui, on disait la dernière fois, il y en a marre les experts. Bon, ils ont gardé le nom d'expert malgré tout, ils ont rajouté initié, puis il y a cette catégorie qui moi j'ai cru que c'était des jeux familiaux au début, et en fait c'est pas forcément des jeux familiaux. Enfin, on reviendra dans les détails de tout ça tout à l'heure. Alors l'As d'Or, moi j'ai fait des petites recherches parce que comme ça existe depuis 1988, je suis allé regarder un petit peu les jeux qu'avaient reçu l'As d'Or un peu plus en détail. Et donc au-delà des récents qu'on a pu citer dans l'émission, j'ai vu qu'on en avait plein dans notre ludothèque au Conservatoire du Jeu, qui a eu des prix. Alors j'ai 2-3 exemples à donner, et le premier m'a fait très plaisir, parce que le tout premier As d'Or de 1988, figurez-vous que c'est l'un de nos chouchous qui l'a eu, puisque c'est le jeu Super Gang de chez Ludo Délire qui a eu le tout premier As d'Or. Je m'en rappelais pas, c'était c'est honteux. Et alors, juste pour en citer quelques-uns comme ça, en 89, on a eu Abalon, qui est bien connu aussi...
Oui, c'est assez connu du grand public.
De nos tables de jeux qui a eu l'As d'Or. En 92, on a eu le jeu Atmosphère. Vous vous souvenez de celui-là avec la cassette vidéo?
Alors celui-là, non.
Bon, alors, moi, je me souviens de ce jeu-là, avec la cassette vidéo. C'était l'un des premiers jeux qui a fonctionné vraiment commercialement parlant avec une cassette vidéo, où on devait mener une enquête dans une ambiance un peu Halloween, monstre et tout ça. Il y en a eu plein de boîtes, non? Vous connaissez pas?
Non.
On en fera une partie.
Ça va.
Avec plaisir.
Jamaïtoscope, on en fera une partie. Et la même année qu'Atmosphère, il y a le Quarto de chez Gigamic qui avait eu aussi son Asdor. Dans les années qui vont suivre, on va commencer à trouver des jeux un petit peu plus spécialisés. Je pense à Barbe Noire de chez Descartes. Je sais pas si vous connaissez celui-là.
Non, celui-là non.
Et à mi-chemin entre Wargame et jeux de plateau, qui l'a eu en 94. Et puis, il y avait aussi plus de jeux, j'ai envie de dire, de bar grand public, je sais pas comment dire. Par exemple, en 98, c'est Tic Tac Boom qui a eu l'Asdor.
D'accord.
Donc,
ouais.
Jeu qui a été édité chez Ravensburger, puis chez Goliath, je crois.
Ouais.
Ou inversement. Et puis, alors, à partir des années 2000, là, on va effectivement trouver quasiment plus que exclusivement des jeux de joueurs, entre guillemets, avec des titres comme Kauna. Vous connaissez Kauna?
Oui, Kauna, très bien. Ouais.
Kauna a eu l'Asdor. Vinci a eu l'Asdor en son temps. Vinci, qui est l'ancêtre de Small World, qui aura aussi l'Asdor quelques années plus tard. Et puis, deux, trois jeux comme Croque-Carotte, par exemple. Je trouve ça marrant que Croque-Carotte de chez Ravensburger ait eu l'Asdor. Pêle-mêle, on va trouver des jeux comme Les Loups-Garous de Tiercelieu, bien évidemment, Les Aventuriers du Rail, Time's Up, Marrakech, Dixit, Seven Wonders et tout le reste de la... Enfin, Seven Wonders, le duel, du Mysterium. Et puis, il y a même eu le jeu de figurines X-Wing miniature qui a eu l'Asdor.
Ah, ça, je savais pas ça.
Qui a eu un prix spécial en jeu expert.
D'accord.
En relisant, ça m'est revenu qu'effectivement ce jeu-là avait eu l'Asdor et je crois que c'est le seul et unique jeu de figurines qu'il a eu. Donc je vous propose, avant qu'on vous parle des nominés, tout ça, qu'on fasse notre première petite pause musicale et ensuite on enchaîne directement avec le Festival de Cannes. Pas en direct malheureusement, mais mais l'année prochaine on essaiera d'y être. On dit ça chaque année. Allez, c'est parti pour une petite interlude musicale. Et nous voilà de retour, alors, pour cette émission spéciale Asdor 2022. Alors, l'Asdor, le festival de Cannes, on a dit quatre catégories. Camille, Erwan, première catégorie, l'Asdor tout court, quels sont les nominés?
Alors, les nominés à l'Asdor tout court, donc il y a la catégorie principale, c'est-à-dire tout public, la catégorie reine, on va dire. Il y a Seven Wonders Architect, donc un nouveau jeu dans l'univers de Seven Wonders, le bien connu.
Tout à fait.
Et on a également Carte Aventura Lassa, c'est un jeu qui est décliné en plusieurs univers. Il y a beaucoup d'univers différents et d'histoires différentes qui sont éditées. Celle-là est la première à Lassa. Et également Happy City, un petit jeu de cartes très agréable.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois jeux-là? Vous avez testé les trois?
Oui.
Oui.
Ouais, moi j'en ai testé deux sur les trois.
Ouais.
Alors, bon, on peut peut-être commencer, je sais pas, moi je dirais que c'est le favori. Seven Wonder Architect.
C'est ton favori, c'est
ça? Moi, c'est mon favori, ouais. Oui, sans hésiter. Oula, c'est pas le vôtre.
Non.
Non, c'est pas le nôtre. Nous, notre favori, c'est Happy City.
C'est ça.
Ah, bah, c'est celui que j'ai pas testé, figurez-vous.
D'accord.
Alors, parlez-nous d'Happy City. Qu'est-ce que ça donne?
Alors, Happy City, en fait, c'est un jeu de Eru Toshiki Sato, illustré par Makoto Takami, édité par Cocktail Games et distribué par Asmodee. En fait, c'est un jeu de cartes où l'on va devoir bâtir des bâtiments qui vont nous permettre d'attirer des habitants et de les rendre heureux pour créer la meilleure et la plus belle ville. Et il faudra bien gérer ses ressources pour sélectionner les meilleures cartes. Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans ce jeu, c'est qu'il y a une variante expert. Donc, on peut y jouer soit en famille, soit effectivement avec des joueurs un peu plus avertis, qui permettent de donner des bonus et des objectifs un peu plus complexes. Mais en soi, ça reste un jeu simple, rapide et rigolo. Donc, moi, j'aime beaucoup ce jeu.
Bon, mais hors nomination, moi, j'avais prévu de l'acheter, celui-là. Donc, je vais bientôt pouvoir le tester. Vous, c'est votre chouchou. Alors,
C'est un jeu qui est déjà extrêmement simple. Dans la mise en place, dans l'explication des règles, au cours de la partie, on va poser 10 cartes devant soi, point final, c'est la fin, on compte les points. Les points sont très simples à compter, les cartes sont jolies, le jeu petit est facilement transportable, il est très bien édité, il a vraiment tout ce qu'il faut, et même s'il est assez simple et vraiment très accessible, et ben même après 10, 15, 20 parties, même nous, on s'en lasse pas, et y a vraiment finalement une vraie profondeur dedans quand on s'y plonge un petit peu. Ouais.
Très bien. Alors ensuite, Seven Wonder Architect. Alors moi, c'est mon chouchou, celui-là.
Ouais.
je sais pas vous, moi j'ai fait 50 parties en un mois. je l'ai trouvé vraiment sympa, mais un peu comme à chaque fois qu'il y a un jeu de la gamme Seven Wonder qui sort en fait.
Oui.
Alors moi, je dis que c'est mon favori parce que en fait tous les autres jeux de la gamme ont eu l'As d'or. Celui-là est très bien aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que ça tournait vraiment bien, que il y avait des vraies stratégies qui pouvaient se mettre en place pour gagner des parties. Enfin, il y avait un vrai divertissement ludique qui était proposé. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, alors c'est pas un mauvais jeu, c'est un très bon jeu.
Ça démarre mal. Ça démarre mal. C'est pas que c'est un mauvais jeu, mais
non, il y a aucun doute. C'est vraiment un très bon jeu. C'est une certitude. C'est pas une version simplifiée de Seven Wonders, comme on a souvent tendance à le dire ou à l'entendre. C'est vraiment un jeu différent en fait, qui se base un petit peu sur l'univers de Seven Wonders, où on va devoir juste construire chacun sa merveille. Et il simplifie beaucoup le Seven Wonders de base, dans le sens où on n'a plus toute cette construction, cette pose de cartes qui pouvait être un petit peu laborieuse, on va dire, quand on n'était pas habitué.
Ouais, quand on ne sait pas jouer. Ouais.
Là, on a vraiment des actions très simples. À son tour, on prend une carte, on la pose, point final. Et en fait, ça va très vite, ça tourne très très bien. C'est très simple et très efficace. Mais à mon sens, c'est pas. Moi, j'aimerais pas le voir nommé, tout simplement parce que Seven Wonders, tout le monde connaît. Il bénéficie déjà de la renommée de Seven Wonders et il a pas besoin de ça pour être vendu.
Ouais.
Alors des plus petits jeux comme Happy City, qui sont beaucoup plus discrets, le méritent tout autant et mériteraient d'avoir un petit peu de communication et de visibilité via l'Asdor.
D'accord.
Oui. Mais ce qu'on a beaucoup apprécié sur Seven Wonders Architect, c'est aussi l'édition, parce que chaque merveille a son propre rangement avec ses cartes, et c'est vraiment très bien fait, très bien pensé.
C'est vrai.
Et du coup, ça reste un très joli jeu, effectivement, dans l'univers de Seven Wonders, qui est archi cool.
Ouais. Moi, je trouve vraiment que le premier Seven Wonders qui était sorti, il était destiné à ce qu'ils appellent maintenant les experts. Que le deuxième, bah, c'était la même chose, mais en jeu à deux. Et que sur celui-là, il s'ouvre un peu sur un public, le grand public.
Ouais, exactement, ouais, c'est ça.
Pour pas dire les familles, parce que c'est pas, ce serait pas bien adapté, mais ça s'ouvre vraiment à un public plus large, avec leur univers. Alors, c'est vrai que l'univers est redondant, parce que finalement, ça fait 10 ans qu'on mange du Seven Wonders à toutes les sauces, avec les extensions qui sortent, parce qu'à chaque fois, les jeux grossissent un peu plus. Mais en vrai, moi, j'ai trouvé les repères agréables, du coup.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même.
On n'est pas perdu, ouais.
Ouais, il y a quand même quelques règles, et du coup, tous les codes graphiques sont respectés d'une édition à une autre, et du coup, j'ai trouvé le jeu vachement compréhensible en un claquement de doigts, quoi.
Ouais.
Ouais, ça c'est vrai.
Je trouvais que c'était un gros plus, et j'ai trouvé que les mécaniques de jeu, comme on connaît déjà, le coup d'avoir un paquet de cartes communes entre deux joueurs ou des choses comme ça, à gauche, à droite, il y a plus besoin de réfléchir vraiment à la stratégie qu'on peut mettre en place par rapport à la pioche ou des choses comme ça. Ça vient assez instinctivement. Enfin, j'ai trouvé, moi.
Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, nous, on a pu en faire un tournoi à l'espace socioculturel vers Pré.
Je l'ai loupé.
Et c'était vraiment sympa. On a passé une super soirée. On s'est bien amusé.
Vous avez gagné?
Non.
Non.
D'accord.
C'est peut-être pour ça qu'on l'aime pas.
Alors, ce dernier jeu pour l'Asdor, c'est donc Carte Aventura Lassa.
Tout à fait, c'est un jeu de Thomas Dupont.
Ouais.
En fait, c'est une collection, il y en a plusieurs autres jeux. C'est des jeux un peu narratifs, donc en fait, c'est un petit peu comme le livre dont vous êtes le héros.
C'est exactement ça, c'est des jeux narratifs.
Mais en carte, donc vous avez une première carte qui va vous exposer une situation, et du coup, vous allez devoir faire des choix. Et tout au long de l'aventure, ça va vous mener à d'autres cartes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs fins possibles. Et en fait, à chaque partie, vous allez pouvoir débloquer des choses pour refaire la partie et arriver à d'autres fins, à d'autres scénarios dans le même jeu. Donc, c'est assez intéressant.
Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de Carte Aventura ?
Eh ben, alors c'est pareil. C'est un très bon jeu qui mérite vraiment sa réputation et qui mérite d'être là. On a adoré la première partie. C'est là vraiment la découverte de l'histoire, la découverte de ce qui va se passer, des choix qui nous sont donnés, et on se rend compte qu'il reste encore une quantité de choses à explorer. Donc forcément, on refait une deuxième partie pour continuer d'explorer, etc. Donc ouais, on l'a beaucoup aimé. Ouais, c'était vraiment vraiment très bien.
Eh bien alors, figurez-vous que moi je l'ai testé aussi et que je l'ai pas trouvé bon.
Alors,
j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu.
Ouais.
Mais alors, moi qui suis d'une génération où j'ai connu les livres dont vous êtes le héros, que j'en ai une pleine bibliothèque, eh ben à l'issue de la partie, je me suis dit que j'aurais mieux fait de lire un livre dont vous êtes le héros. J'aurais presque passé un meilleur moment.
Je me suis dit la même chose.
Parce que le coup des cartes du jeu narratif. Alors en plus depuis, c'est le premier jeu narratif que j'ai testé. Depuis j'en ai essayé un autre. J'ai essayé Time Stories.
Ouais.
Et qui est incroyablement bien en fait, hein, qui est vraiment sympa. On a fait deux parties de suite parce qu'on n'avait pas réussi la mission.
C'est un peu le même principe que Time Stories, oui, c'est vrai. Ouais.
Et Carte Aventura, ouais. Pareil, la première fois qu'on a joué, on n'a pas réussi, donc on a fait une deuxième partie dans la foulée. En fait, on a eu de l'engouement sur les 10 premières minutes de jeu, alors que la partie dure 1 heure, parce que il y a des paffetons énormes sur les cartes à lire. Si t'es plusieurs joueurs, bah, c'est bien de le lire à voix haute. Donc, il faut quelqu'un qui puisse avoir une lecture. Enfin, on n'arrive pas forcément tous à bien lire à voix haute devant un groupe de joueurs. Enfin, voilà, c'est pas évident pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai que c'est presque un jeu solo ou maximum à 2 joueurs, mais à plus de solo, joueurs, c'est compliqué.
Solo,
ouais.
Je l'ai pas testé en solo, du coup, parce que l'expérience à plusieurs m'a pas emballé. Mais, solo, c'est peut-être mieux, effectivement, mais encore une fois, enfin. Carte Aventura, le livre dont vous êtes le héros.
Oui, c'est sûr.
Et puis dans les, enfin, je trouve qu'il y a plus de plaisir ludique à un livre dont vous êtes le héros avec sa mécanique de jeu. Carte Aventura, il propose la sienne de mécanique que j'ai trouvé moins sympa, en fait. Et encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis que moi je l'ai pas aimé parce que j'ai une expérience ludique différente, mais et je crois que la meilleure façon de savoir si on trouve si c'est bien ou pas, c'est de l'essayer celui-là pour le coup.
C'est sûr, ouais, exactement.
Et effectivement, il y a un scénario de démo sur les légendes arthuriennes qui s'appelle Tintagel.
C'est ça.
Il y a le Lassa et puis je me rappelle plus, mais il y en a déjà
Oklahoma,
deux autres qui sont sortis.
Il y en a un autre qui va sortir bientôt. Il y en a encore deux autres en préparation.
Je crois qu'ils en avaient plus d'une douzaine en préparation.
Ouais.
Donc
vraiment,
une vraie licence qui va se lancer.
Et c'est une vraie. Ils essayent de traiter des personnages qui sont un petit peu moins connus, peut-être ils vont pas aller dans les grandes histoires que tout le monde connaît, les grandes légendes que tout le monde connaît, etc. Il y a vraiment un travail de recherche historique qui est fait sur des petits personnages moins connus.
Et c'est complètement vrai. Et nous, on était très hypés à l'idée de jouer à Lassa parce que on suit les traces de Alexandra David Niels.
Ouais, c'est ça.
Et la personne à qui j'ai joué est quelqu'un qui est fan De cette personne et qui a visité son musée qui existe en France et tout ça. Et c'était un peu la surprise, en fait. On s'est dit, ah bah, on savait pas que ça parlait de ça. Ah bah, c'est super, je l'adore. Donc, on était très hypé à l'idée de jouer, du coup. Et du coup, après, un peu déçu. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le site du Conservatoire du Jeu, donc sur leconservatoiredujeu.fr. Vous pouvez retrouver chaque semaine des articles qui s'appellent « Soit on a testé pour vous, soit un métro de retard », où on fait des critiques de jeux récents et des critiques de jeux moins récents. Vous trouverez, ces derniers mois, on a publié une critique sur justement Seven Wonder Architect et une autre sur Carte Aventura, là, ça, justement. Pas encore Happy City, ça viendra sûrement. Mais bon, voilà. Donc, on rappelle nos deux chouchous. Pour moi, ce sera Seven Wonder et pour Camille et Erwan, ce sera...
Happy City.
Bien, on verra si on a bon ou pas. Alors ensuite, on a la catégorie enfant qu'on va peut-être voir un petit peu plus succinctement, puisque, soyons francs, on n'est pas des vrais spécialistes des jeux pour enfants. On voit bien les mécaniques qui peuvent fonctionner, bien fonctionner, mais on est dans une catégorie de jeux qui est un peu différente de celle qu'on aime pratiquer au quotidien. Alors, quels sont les nominés ?
Les nominés donc sont Attrape Monstre, c'est un jeu qui est édité par Space Co. et de Justine De Witt, illustré par Cam Kendall. C'est un jeu de où il va falloir défendre son château d'assaut de monstres qui vont venir essayer de nous assaillir. Voilà. Il y a également Bubble Stories qui est édité par Blue Orange, c'est de Matthew Dunstan et c'est illustré par Simon Douchy et c'est presque mon premier Unlock, un jeu narratif pour enfants. Et on a finalement Pimpon, qui est édité par Djeko. Et l'autrice, c'est Julie Bréjot, et l'illustratrice, Lizzie Hunter. Et là, ça va être un jeu vraiment pour la petite enfance, où il va falloir aller éteindre des incendies avec son camion de pompiers.
Très bien. Et alors, vous avez, j'imagine, vous aussi, vous non plus, devrais-je dire, testé ces jeux ?
Non, on les a pas testés.
Alors, on fera pas de pronostic, à moins que vous ayez une idée, mais si vous aviez un chouchou, si vous aviez regardé un petit peu, on va pas émettre un pronostic sur des jeux qu'on n'a pas trop testés.
Enfin, non, c'est sûr.
C'est,
ouais.
c'est toujours, compliqué.
C'est déjà de, enfin, on n'émet pas d'avis sur un jeu qu'on n'a pas essayé parce que un jeu, ce qui va primer au-delà de la thématique et tout ça, c'est quand même sa mécanique ludique.
C'est ça, oui.
Et le plaisir qu'on va ressentir à y participer qui peut être différent pour tout le monde, même si le jeu est très bon ou très mauvais. Alors, continuons avec la catégorie suivante, la nouvelle catégorie, les jeux pour initiés. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre, jeux pour initiés ?
Jeux pour initiés, en fait, l'année dernière, c'était un petit peu l'exemple typique de The Crew, le jeu de pli qui était classé en catégorie expert, alors que c'est pas un jeu
c'est
qui
pas
est
pas
du
un
tout
jeu
compliqué.
Pour expert, ouais, c'est les règles de la belote,
et ouais, c'est ça,
un
exactement.
Jeu coopératif en plus.
Mais qui était pas assez simple pour être dans la catégorie reine de l'Asdor, parce que c'était pas assez tout public, on va dire.
Ouais.
Donc il y a toute une catégorie jeux qui se retrouve un petit peu, on va dire, le cul entre deux chaises, entre l'accessibilité et la complexité.
Mm-hmm.
Et c'est la raison d'être de cette catégorie-là. Donc c'est vraiment des jeux qui sont pas accessibles, on va dire, facilement. Mais pour quelqu'un qui a déjà pratiqué 4 ou 5 jeux modernes différents, ça va être tout à fait accessible et facile à prendre en main.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette catégorie ? Les nominés sont...
Les nominés sont Living Forest, de Aske Christiansen, édité par Ludonote et illustré par Apolline Etienne.
Ouais.
Nouvelle Contrée, de Wiesenstark, illustré par Jeanne Landard et édité par Olibrius, et Oltré de Antoine Boza et John Krumpf, illustré par Vincent Dutray et édité par Studio H.
D'accord. Alors ceux-là, est-ce que vous avez... lesquels vous avez testés ?
Les trois.
D'accord. Alors on commence dans l'ordre. Living Forest, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh ben, c'est un jeu qui est assez surprenant et un peu déstabilisant au début. Parce que il va s'agir en gros de construire son deck de cartes en achetant des monstres, des animaux plutôt, pour réussir à atteindre une des trois fins possibles. En fait, c'est un jeu où il y a trois possibilités de gagner différentes et vraiment de manière complètement différente. Soit éteindre tous les incendies dans la forêt, soit collecter suffisamment de fleurs sur les cartes animaux, soit réussir à planter suffisamment d'arbres. Et c'est vraiment deux manières complètement différentes de scorer et chaque joueur pourra tenter l'une ou l'autre.
Ouais.
De manière différente.
Et alors, déstabilisant, mais...
À la lecture des règles, ça peut paraître un peu bizarre, et ensuite, dès que le premier tour de jeu est passé, en fait, c'est vraiment complètement évident, facile, et très 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 accessible, très fluide.
Comme on le dit tout le temps, en fait, faut jamais se laisser frayer par une règle.
Ouais.
Un premier tour de jeu, on va visualiser les mécaniques de jeu qu'on vient de nous expliquer, soit à l'oral, soit en les lisant. Ça, tout devient limpide en général.
C'est ça, exactement. Et là, celui-là, il est vraiment particulièrement fluide, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le même tour, en même temps. pour tous les joueurs. D'accord. Donc ça va être des parties très rapides, même à 4 joueurs.
Ouais.
Et les possibilités sont vraiment très nombreuses, c'est très très agréable.
D'accord. Alors ensuite, on a un jeu qui s'appelle Nouvelle Contrée.
Oui, alors pour le coup, c'est un jeu vraiment atypique qui en fait utilise pour support n'importe quel livre de votre bibliothèque. Donc chacun son tour, en fait, on va sélectionner un livre. Chacun son tour, on va lire pour soi un petit paragraphe vraiment de 6 lignes et on va choisir une image qui correspond. Et c'est des images un petit peu comme des images de Dixit, par exemple, avec de jolies illustrations. Et ensuite, on va lire ce texte à voix haute à tous les gens, à tous les autres joueurs. Et ils vont essayer de retrouver quelle carte on aura choisie en amont.
Très bien.
Voilà, qui peut correspondre au paragraphe.
Très bien. J'ai vu des démos de ce jeu-là. Des gens, ils jouaient au Festival de Vichy au mois de septembre dernier. Effectivement, ils avaient amené une micro-bibliothèque avec une dizaine d'ouvrages. Et on voyait les gens aller chercher les bouquins, chercher des extraits, et effectivement, jouer comme ça. Et oui, ça a l'air sympa comme mécanique de jeu.
C'est intriguant comme concept. Ouais. Vraiment, c'est déstabilisant. Ouais.
Ouais.
Oh, dis donc, mais les nominés t'ont déstabilisé, toi, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu de Nouvelle Contrée?
Moi, j'aime bien parce que c'est très original. Après, en soi, bah, du coup, on va avancer un petit peu. On va pas du tout retrouver l'histoire du livre.
Oui, bien évidemment.
Voilà, mais ça permet de vivre une jolie aventure avec les autres joueurs.
Ouais.
Et c'est amusant de voir un petit peu ce que sont capables de penser les uns et les autres, un petit peu comme tous ces jeux d'association d'idées comme Dixit, Mysterium. On va essayer de trouver un petit peu qu'est-ce que les gens vont pouvoir penser, trouver dans les images, etc. Et là, on a aussi l'apport de quelques modules supplémentaires qu'on va venir rajouter une fois qu'on maîtrisera un petit peu le jeu, qui vont amener un petit peu de, c'est ce qu'on appelle les péripéties, qui vont amener un petit peu de rebondissements, des contraintes, on va devoir parler d'une certaine manière, remplacer les mots par d'autres. Ouais. Et du coup, on peut avoir des situations qui sont vraiment très, très drôles.
Et alors, moi, ça me soulève une question, en fait, ce type de jeu. Là, on parlait des jeux narratifs, juste avant, avec Carte Aventura et tout ça. Là, on a encore un jeu avec une mécanique très atypique. On est presque plus dans du jeu d'ambiance du vrai jeu. Est-ce que ces jeux narratifs, d'après vous, ou des jeux atypiques comme celui-là, ont vraiment leur place en tant que nominés à une cérémonie des As d'Or? Est-ce que les As d'Or, si vous aimez mieux l'idée derrière, c'est est-ce que les As d'Or devraient pas favoriser des jeux avec des mécaniques ludiques, avec des guillemets, des vraies mécaniques ludiques, plutôt que des jeux atypiques qui vont plutôt utiliser l'ambiance? Donc, en fait, pour faire un jeu d'ambiance, on peut prendre un petit bout de papier et faire n'importe quoi avec. Dès lors qu'on a mis l'ambiance, en fait, ça va fonctionner. Est-ce que vous pensez que ces jeux d'ambiance ont leur place?
Oui, alors absolument, il n'y a pas de souci avec ça, d'autant plus que généralement un jeu c'est en gros fait pour s'amuser, c'est fait pour passer à bon moment, et en fait il n'y a aucune raison finalement de différencier des jeux d'ambiance qui sont là pour apporter de l'amusement, de choses comme ça. Des jeux qui sont un peu plus sur la réflexion, un petit peu plus sur ce genre de choses. En fait, c'est vraiment, c'est pas deux catégories différentes. Il y a des jeux qui mêlent un petit peu les deux. Il y a des jeux qui sont plus axés sur l'un, sur l'autre. Et ce qui compte, c'est vraiment finalement la façon dont il est fait et le fait qu'on passe un bon moment, en fait.
Très bien. Quelque chose à rajouter, Camille?
Non, c'est tout à fait ça. Moi, je suis d'accord qu'il ait sa place également. Je pense qu'il faut rester ouvert à toutes les nouvelles mécaniques. Mais
je te pose la question parce que nos auditeurs ne voient pas nos hochements de tête. Parce que on était tous les deux en train d'hocher la tête pendant qu'Erwan parlait, mais oui, on est tous d'accord. Oui. Alors, et ensuite, en dernier, le dernier nominé dans la catégorie initiée, c'est donc Oltré.
Oui, Oltré, en fait, c'est un jeu coopératif dans lequel on incarne des chevaliers. Et l'objectif est de suivre et de résoudre une histoire en allant aider les villageois aux alentours de notre château, tout en construisant notre château pour améliorer nos capacités communes.
D'accord. Alors j'ai vu que c'était Studio H qui était l'éditeur. C'est déjà eux qui avaient raflé l'As d'Or
avec
Oriflamme. Ouais. C'était quand? C'était il y a 2 ans.
Oui.
Ouais.
Alors comment ça se présente, Oltré? Parce que j'ai vu que Studio H avait une grosse gamme de jeux de cartes à la manière de Oriflamme. Enfin, Studio H, pardon. Quel est le matériel de jeu sur Oltré? Est-ce qu'on est aussi sur des cartes
comme... Non, là, on a un vrai plateau avec... Il y a des petites figurines cheval pour les chevaliers, avec le chevalier sur son cheval.
Une jolie figurine en bois, ouais, vraiment des gros meeples en bois, comme ça, c'est très, très joli.
Il y a un gros dragon aussi en bois, et puis après, sur le côté, on a toute la partie, justement, qui va faire dérouler le scénario et l'histoire, qui va être un peu différente à chaque jeu, et voilà. D'accord. Et tout autour, il y a effectivement les cartes qui se dispersent pour aller, qui représentent les villageois qu'on doit aller aider.
Et alors, c'est bien?
C'est très très bien, ouais.
Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, oui.
D'accord.
C'est très bien parce que du coup c'est narratif, donc ça raconte vraiment une histoire. En fait, il y a vraiment il y a plusieurs cartes qui sont là pour se succéder et nous raconter un petit peu l'avancement de l'histoire en fonction de nos actions. Alors il y a pas des choix monstrueux à faire, il y a pas des choses comme ça, des axes à prendre ou d'autres comme dans Carte Aventura par exemple, mais par contre on a vraiment quelque chose qui se déroule, il va nous arriver des choses et on a plusieurs sets de cartes pour nous raconter plusieurs histoires pour faire plusieurs parties. Et à ça, on va rajouter encore d'autres cartes qui vont nous faire un petit peu des événements aléatoires, on va dire.
D'accord.
Et tout ça, ça s'articule très très bien parce que les actions sont très simples. À chaque fois à son tour, on a une seule ou deux actions à faire. Et le tour des joueurs va vraiment s'enchaîner très très vite. Il n'y a pas de temps d'attente, de choses comme ça. C'est très dynamique et très bien fait.
Oui. Et c'est pas des scénarios qui sont jetables comme on en parlait.
Oui.
C'est des scénarios qui vont pouvoir être rejoués en fait parce que réussir un scénario ou pas ne dépend pas du scénario en soi, mais de si on a bien réussi à aller aider les différents villageois avec les cartes alentour.
Oui, d'accord. Donc
On peut très bien rejouer plusieurs fois un même scénario parce qu'on n'aura pas les mêmes postulats après pour le réussir en fait.
C'est donc, ça.
C'est ça qui est intéressant, ce que j'ai bien apprécié dans ce jeu.
D'accord. Alors, parmi ces trois nominés, on les répète, Living Forest, Nouvelle Contrée et Oltrée, votre chouchou?
Alors, je ne sais pas si on n'a pas le
on
même,
a
je
pas
crois,
sur celui-là. Ouais.
Très bien.
Alors, moi, je trouve Nouvelle Contrée un peu en dessous, notamment parce que, alors même s'il est très original et très bien fait, c'est quand même un jeu qui est un peu compliqué à appréhender et qui n'est pas, pour moi, pas très optimisé au niveau du matériel. Donc il a quelques inconvénients qui fait qu'il est en dessous des deux autres et moi après je préfère Living Forest parce que vraiment la proposition, le jeu est magnifique déjà premièrement et la proposition de différentes façons de gagner de manière aussi simple en fait, c'est très élégant, très simple, très rapide.
D'accord.
Je trouve ça vraiment vraiment bien fait.
Alors ouais, Living Forest pour Erwan. Oui. Et toi Camille?
Et moi c'est Oltrée.
Toi c'est Oltrée.
Oui. Moi, je suis une grande fan des jeux coopératifs. J'aime bien quand on joue tous ensemble et qu'on gagne tous ensemble.
D'accord. Je vous propose que nous fassions notre deuxième coupure musicale avant d'attaquer la catégorie expert. Donc, c'est parti pour une petite pause musicale. Et nous revoilà toujours sur les nominés, la cérémonie des As d'Or, meilleure récompense de l'année en France. Alors on arrive à notre dernière catégorie, la catégorie expert. avec, donc je vois Dune, Iki et les ruines de Narak, pardon. Vous avez testé les trois?
Oui.
Ouais, pareil, ouais.
Moi, j'ai pu en tester qu'un seul sur les trois, j'ai testé Narak.
Ok.
Et alors, Dune, alors bah Dune, comme tout le monde, moi j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai vu que tout le monde à l'unisson disait que c'était bien.
Oui.
Que c'était un bon jeu. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, c'est un très bon jeu. C'est en fait c'est un jeu où on va devoir faire un placement d'ouvriers et un peu de deck building qu'il va falloir bien gérer. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il reflète vraiment bien le livre et aussi le film bien sûr. On retrouve vraiment les personnages, etc. Et puis, il va falloir mener des partenariats avec les différentes maisons pour qu'ils viennent nous soutenir. Enfin, on se retrouve vraiment dans l'univers du livre. Et du coup, c'est un très beau jeu.
Du livre, du film, enfin...
Alors, c'est un jeu qui était conçu pour sortir en même temps que le film qui est sorti cet été, du coup, je crois.
Ouais.
Évidemment, Covid, etc. Ça a un petit peu décalé les deux sorties.
Ouais.
Mais ouais, on en retrouve les illustrations qui sont basées sur les acteurs du film.
D'accord.
Alors, sans que ça soit non plus photoréaliste, hein. C'est quand même du dessin et même si on n'a pas vu le film, il n'y a aucune raison d'être perdu. Enfin, moi, j'ai pas lu le livre ni rien, mais ça m'empêche pas de vraiment adorer ce jeu-là. Et donc, c'est par l'auteur de Clank.
D'accord.
Donc, c'est Paul Denen. Et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu la mécanique de deck building qu'il aime beaucoup. Et même si c'est un jeu qui est assez complexe, finalement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il est très, on va dire, contraignant. Au niveau des choix qu'il y a à faire, on peut pas faire ce qu'on veut, il nous manque toujours telle ressource, il nous manque toujours telle chose, etc. Et mine de rien, il est quand même assez simple à prendre en main parce que il y a pas de l'iconographie dans tous les sens, il y a pas des choses extrêmement complexes à assimiler, c'est uniquement un assemblage de choses très simples finalement.
D'accord.
Ouais. Il a beaucoup d'interactions et de rebondissements au final parce que on va essayer de mener sa petite stratégie pour gagner, mais en fin de compte, au final, on va devoir aller affronter les autres, donc si on s'y prépare pas, on va pas pouvoir tout faire en même temps.
Très bien. Donc, édité chez Lucky Duck Games, Dune Imperium. Alors, le second, Iki.
Alors, le second, Iki, donc celui-là, on l'a testé très récemment, la semaine dernière. Là, on l'a pu l'acheter. Donc, c'est édité par Sorry We Are French. L'auteur, c'est Kuta Yamada, illustrateur David Sibon. Alors, c'est un jeu, pareil, qui a pas mal de particularités. C'est un jeu où on va devoir construire un petit peu son moteur de cartes en ouvrant des commerces dans une rue commerçante au Japon.
D'accord.
Voilà. Et la particularité va être que, au-delà du fait qu'on va poser des cartes, récolter des ouvriers pour pouvoir pouvoir se développer tout simplement, on va devoir à certains points dans la partie affronter des incendies. Donc c'est des incendies qui vont arriver sur le plateau et qui vont se propager. Et il va falloir s'y préparer absolument, ou il va falloir utiliser des joueurs qui sont préparés comme boucliers.
D'accord.
Donc en fait, on va avoir plusieurs axes. On peut très bien se développer pour se préparer à lutter contre le feu. Mais sachant que ça nous prend du temps et pendant ce temps-là, on se développe pas, on gagne pas de points de victoire.
Ouais.
Ou alors, on peut tenter de, ok, je me bats pas contre le feu, mais je vais essayer de me planquer derrière mes petits camarades qui, eux, vont me protéger. Même si c'est pas du tout un jeu coopératif, loin de là.
D'accord. Bon, c'est bien?
Ouais.
Oui. Moi, je trouve que c'est très bien. On va devoir vraiment gérer les compétences des différents commerçants qu'on aura choisis pour mettre dans notre rue du commerce. Et puis les faire progresser, les emmener vers la retraite, tout en effectivement en même temps et veillant au feu qui arrive. C'est simple, les tours sont assez rapides. Moi, je trouve que et puis il est assez joli.
Le matériel est magnifique. Ouais.
Et du coup, on va devoir gérer un petit peu tout ça en fonction de notre progression, de l'argent qu'on doit gagner pour se redévelopper, etc. Et l'objectif, c'est de gagner de l'Iki, donc le nom du jeu,
ouais,
qui en fait est considéré au Japon comme un idéal de vie, qui est un mix un peu entre la sérénité, l'argent. Et du coup, je trouve ça assez beau.
Bon, alors, et pour finir, les ruines de Narak.
Les ruines de Narak, donc ça c'est un jeu qui est vraiment très 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 bien et qui a souvent été comparé à Dune Imperium.
Ouais.
Parce que notamment ce qu'il compose c'est principalement du deck building et du placement d'ouvriers comme Dune Imperium.
Ouais.
Donc les ruines perdues de Narak, ça a été édité par Yellow et les auteurs sont Min et Elwen, illustrés par toute une cohorte d'illustrateurs. Alors je sais pas de quel pays de l'Est, mais il y en a beaucoup. Jiri, Kus, Onies, Riddina, Jakub Politzer. Bref, je vais m'arrêter là. Donc le but, ça va être simplement d'aller explorer une jungle plus ou moins hostile pour pouvoir récupérer des artefacts, récupérer des cartes, faire de la recherche afin de faire un moteur de points de victoire.
Mmh.
Finalement, réussir au bout d'un certain nombre de tours, au bout de 5 tours, à être celui qui a le plus de points de victoire.
Et alors, celui-là, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait de jolies illustrations. Il y a plusieurs manières de gagner, encore une fois. Et je trouve qu'elles sont très bien équilibrées, en fait. On va pouvoir soit aller explorer vraiment depuis notre camp de base l'île de Narak, ou du coup, il va falloir aller combattre des monstres. Ou alors, il va falloir aller gérer une piste de recherche où, du coup, on va pouvoir gagner des bonus, des points de victoire à travers ça.
J'ai trouvé aussi que c'était un jeu qui était bien équilibré, avec plusieurs stratégie d'emblée, quand tu sais un peu jouer, pas forcément jeu là, mais quand t'as l'habitude de jouer à des jeux de plateau, je trouvais que tout de suite il y avait des chemins de stratégie à suivre et que tu pouvais pas, de toute façon, pas tous les emprunter immédiatement et qu'il fallait choisir je trouve qu'il a quelque chose d'assez séduisant.
Il est très très bien,
Oui.
Et bon, malheureusement, moi, c'est le seul que j'ai testé sur les trois, mais ouais, la mécanique de jeu, au-delà du fait que les stratégies me paraissent bien faites, la mécanique de jeu entre le placement d'ouvriers et le deck building, je suis aussi très tout à fait d'accord avec vous. Je trouvais que c'était bien fait, bien ficelé, que c'était fluide et que pareil, après un tour de jeu, ben il y avait pas de quoi dans une partie, ça tournait bien, alors qu'il y a des règles quand même malgré tout et que ben, tout est bien haché pour que ça puisse avoir un découlé avec du sens.
Oui, tout à fait.
Alors, bon, après, moi, je dis ça, les ruines de Narak, c'est la thématique qui me rend fou dans les jeux, j'adore. Je suis un fan de Tikal, je suis un fan des Cités Perdues, enfin, voilà, je suis pas objectif.
Voilà, c'est Indiana Jones.
Dès qu'il y a des tombeaux, les fouiller, moi, je suis partant. Alors, votre chouchou?
Moi, mon chouchou, c'est Iki, du coup.
Ouais.
Parce que c'est vraiment des belles illustrations et, comme je l'ai dit tout à l'heure, une belle morale. Je trouve que c'est assez intéressant d'y jouer.
D'accord.
Ouais, alors c'est vraiment compliqué pour le coup, parce que là, les trois jeux sont tous les trois vraiment excellents. Pour moi, il n'y en a aucun qui est réellement en dessous d'un autre. Les trois vont faire des choses différentes, mais moi, je préfère Dune Imperium, parce qu'il y a une composante qu'on trouve rarement dans des jeux un petit peu de cette gamme-là, c'est qu'il y a énormément d'interactions, presque comme un jeu d'ambiance, pour le coup. On en parlait tout à l'heure, de mélange de mécanique entre réflexion, ambiance. Là, il va vraiment y avoir un aspect de chaos, d'aléatoire, un petit peu, qui va venir nous perturber et nous pousser dans nos retranchements. Ça va faire des retournements de situation, des situations vraiment épiques. On a envie de raconter sa partie après parce que il s'est passé ça, et puis j'ai emmené l'armée à tel endroit, et puis lui, en fait, il m'a sorti une carte, il m'a tué deux bonhommes, et en fait, du coup, il m'a piqué le point de victoire que je voulais, et la majorité de machin. C'est vraiment, il y a des situations qui sont épiques, quoi. C'est vraiment digne d'un film.
Ah oui, emballé.
Ah ouais, celui-là, j'adore.
J'avoue, moi, alors j'ai testé que les ruines de Narak, mais je pense que si je devais donner un favori, je pense que Dune, il est en bonne place pour remporter cet As d'Or des jeux experts. Et je crois que c'est lui qui a eu la meilleure couverture médiatique, et suivi par Narak. Parce que Narak, on en a aussi beaucoup parlé. Par contre, Iki, soyons francs, moi, j'en ai presque pas entendu parler. Et pourtant, je suis quand même pas mal de l'actualité du jeu de plateau. Et
bah, il est sorti très récemment déjà, alors que les deux autres sont sortis Narak peut-être en avril-mai.
Avant l'été, Narak avant l'été, c'est sûr.
Et Dune Imperium pendant l'été aussi, pareil. Mmh. Donc déjà, il y a eu beaucoup plus de temps des gens d'en parler, de faire mousser le truc. Alors que Iki est sorti en décembre, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et il a eu beaucoup moins de couverture médiatique. Ouais. On en a beaucoup moins parlé.
On n'avait pas eu le temps de l'essayer, de l'acheter et de le tester. Et quand on a vu qu'il était nommé, on l'a pris quand même pour avoir un avis avant la cérémonie.
Alors, d'ailleurs, cette cérémonie, donc elle sera diffusée normalement le vendredi 25.
C'est le
jeudi 24 à 19h au Palais des Congrès.
Donc au moment où cette émission se termine, vous pouvez tout de suite foncer sur Internet pour regarder en direct.
Exactement.
La remise des As d'Or, c'est pas incroyable ça.
Et vérifier nos pronostics.
Donc évidemment, si vous cherchez des informations sur le festival de jeux de Cannes ou sur la cérémonie, on vous invite tout simplement à faire une recherche Google. C'est très très bien couvert. À peu près toutes les personnes qui font du jeu de plateau en France, que ce soit sur YouTube, sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, ne va parler que de ça d'ici la fin février. On parle même plus du festival de Cannes que d'autres festivals français comme le festival de Parthenay, qui est aussi un gros festival. Oui. Cannes est bien mieux couvert parce que il y a la remise des As d'Or et que normalement il y a toutes les marques qui sont représentées là-bas. Alors cette année, encore une fois, c'est une édition un petit peu particulière pour ceux qui sont en présentiel, puisqu'il y a de nombreux éditeurs éditeurs de jeux qui ne veulent pas faire le déplacement pour des raisons sanitaires à cause du Covid. Et en l'occurrence, Asmodée, qui est quand même le plus gros.
Le grand absent.
Qui représente à lui seul, je sais plus, une quarantaine de marques. Enfin bon, donc du coup, il va manquer pas mal de monde. Mais on a vu aussi pas mal d'autres éditeurs à côté faire la même chose en disant que pour des raisons sanitaires, bah, ils seraient pas là.
Alors, des fois, c'est pas plus mal parce qu'Asmodée prend de la place finalement dans le jeu.
Ça peut être comme ça.
C'est la grosse machine et ça va peut-être laisser de la place à des plus petits éditeurs et donner de la visibilité à d'autres. Ouais.
Bon, moi, j'aurais encore pas l'occasion d'y aller. Vous y êtes déjà allé, vous ?
Non. Ça va être la première fois cette année.
Vous y allez cette année, oui. C'est pas vrai, bande de petits bénards. C'est pas vrai, je vais suggérer. Sortez du studio, c'est terminé, je peux plus vous voir.
Et on sera également à la cérémonie de remise des prix de l'Asdor.
Ah, super, vous me ferez coucou, je regarde derrière mon ordinateur. Non, nous, on va faire le nécessaire pour essayer d'y aller l'année prochaine, là, pour 2023. Effectivement, quand sanitairement parlant, ce sera un peu tassé. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse avoir un stand là-bas, quand même, qu'on puisse faire quelque chose depuis le temps qu'on a envie d'y aller, que les étoiles ne se mettent pas dans les bons axes. On espère que ça pourra se goupiller comme ça. En attendant, merci beaucoup Camille, merci beaucoup Erwan. Je reviens vers vous dans un tout petit instant. Alors, à chaque fin d'émission, vous le savez, nous parlons du programme des animations à venir pour le mois prochain. Alors, programme toujours un peu en dents de scie à cause du Covid. Effectivement, il y a des manifestations qui se retrouvent repoussées, reportées. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que vous pourrez nous retrouver le vendredi 1er avril à la médiathèque de Fourchambault pour une scène de crime ambiance vieille Écosse à partir de 18h. Mais vous pourrez surtout nous retrouver juste après le dimanche 3 avril au Petit Théâtre de Nevers pour une scène de crime exceptionnelle avec deux sessions et seulement deux sessions sur le thème du théâtre. On a tout le théâtre à disposition pour pouvoir jouer. On vous en reparlera un peu et surtout sur les réseaux sociaux plus qu'à l'antenne. N'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire. Tous les renseignements seront sur notre Facebook et sur notre site internet dès que vous entendrez cette émission, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Alors bien évidemment, on y reviendra dessus. On aura le 28 mai aussi notre fête du jeu au parc Roger Salengros, comme on fait chaque année, qu'on n'a évidemment pas pu faire non passé. On vous fera une émission spéciale pour vous parler de la fête du jeu et de tout ce qu'on va vous proposer durant cette belle journée du 28 mai. Notre émission se termine. Je vois que Camille lit mes notes. Camille, c'est quoi la prochaine question ?
Je ne sais pas.
Camille Erwan, un mot pour la fin.
Un mot pour la fin, l'Asdor, en gros, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très très connu en dehors du monde du jeu finalement, mais il faut retenir que c'est quand même un label qui qualifie et qui est apposé.
C'est vraiment
un gage de qualité à tous les niveaux. Et donc, puis, acheter un jeu où il y a marqué nominé Asdor ou carrément Asdor, c'est pas une erreur.
Dès que les récompenses sont tombées, les jeux sont réédités, sont réimprimés, se retrouvent avec un petit macaron Asdor ou parfois un autocollant Asdor pour mettre sur les boîtes qui avaient été faites avant. Donc, dès lors que vous achetez un jeu avec un macaron Asdor, faut quand même être franc, vous êtes à peu près sûr d'avoir un bon jeu.
Ouais, exactement.
Peu d'Asdor, moi, qui m'est vraiment déçu. Et mécaniquement, enfin, ludiquement parlant, c'était tous des bons jeux de toute façon.
Oui.
Donc,
on ne connaît pas trop les jeux, effectivement, c'est un bon conseil de choisir en prenant un Asdor.
Très bien. Merci Camille, merci Erwan d'avoir été mes invités pour cette 35e émission de
Aquacojo. Merci David.
Vous pourrez retrouver, bien évidemment, chers auditeurs, toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM, mais également sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, et comme je dis toujours, même heure, même endroit. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques.